Good Morning Business, le grand entretien.
Et à 8h16, c'est Frédéric Oudéa qui est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Merci de faire cette transition professionnelle sur le plateau de Gouvernement Business, puisque dans 8 jours, vous quittez la direction générale de la Société Générale. Ça fait 15 ans que vous étiez patron, 28 ans passés dans la banque. Et alors, deux jours après, gros break hein, quand même, hein, vous prenez la présidence de Sanofi. Là encore, enjeu colossal, hein, l'industrie pharmaceutique, avec tous ces enjeux de transformation actuels. On va quand même faire le bilan de la générale, d'avoir pas trop un petit pincement au cœur, là, le pot de départ, c'est demain.
Si, une énorme émotion quand vous quittez vos équipes, une entreprise dans laquelle vous êtes autant investi. Mais je pars en étant en train de franchir des étapes stratégiques formidable. Ce week-end, j'étais avec nos équipes pour la bascule informatique permettant la création de notre nouvelle banque en
avec
France.
Crédit du Nord, Société Générale.
Le 22, une journée avant de partir, c'est le closing de l'acquisition de LeasePlan. Donc bref, c'est le bon moment pour partir d'un point de vue stratégique, mais bien entendu, beaucoup d'émotions à quitter une espèce de famille professionnelle, bien sûr, dont je suis très proche.
En matière de bilan, vous le disiez, il y a des opérations très réussies, celle de Crédit du Nord, il y a tout l'aspect leasing que vous avez monté à la Société Générale. Il y a une chose que vous n'auriez pas réussi à faire, que vous n'avez pas réussi à faire, c'est remonter le cours. Le cours de la Générale, il est quand même toujours très bas. On n'a rien pu faire pour ça.
Vous savez, le secteur bancaire européen attire peu.
Et pourtant, il y a
marchés,
des performances.
Non, mais absolument. C'est pour ça que, en fait, nous sommes dans une transformation profonde de notre business model. Le marché bancaire français, par exemple, qui est probablement le plus difficile aujourd'hui en Europe, il exige des transformations et nous sommes en train de les faire. Donc, moi, je suis extrêmement confiant que dans les deux prochaines années, on recueille tous les fruits de cette transformation et qu'on réduise effectivement l'écart entre la valeur intrinsèque des actifs de la Société Générale et le cours de bourse. Donc, ça, c'est un peu de patience. Je pense que, en tout cas, ça fait 3 ans qu'on a des performances de très bon niveau. On transforme avec des actifs différenciants comme Boursorama, la mobilité durable avec l'acquisition de LeasePlan. Je suis très confiant que l'écart va se réduire.
On a eu ce débat à 7h10 entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos sur la solidité finalement du système bancaire européen versus le système américain qui est empêtré dans la crise des banques spécialisées, des banques régionales. Finalement, il y a eu beaucoup de réglementations en Europe, les fameuses réglementations de Bâle. Parfois, les banquiers ont un peu raloché, mais au final, ça vous a servi. Ça fait de vous des établissements bancaires très solides, apparemment.
Absolument, c'est très clair. On l'a vu dans tous les résultats, dans la solidité des bilans, où il ne s'est rien passé en Europe.
Non. Pour l'instant, je
pense. Et c'est vrai. Bon. Non, mais quand vous voyez, nous avons par exemple 212 milliards de cash en réserve dans les banques centrales. Vous voyez la masse que nous avons. Donc, ce qui est vrai, c'est que la réglementation s'est appliquée à toutes et tous, alors qu'aux États-Unis, elle ne s'est appliquée qu'aux grandes banques. Et des banques de taille petites et moyennes n'ont pas eu ce type de réglementation.
Notamment parce que Trump a lâché la réglementation.
Voilà, exactement, en considérant que les petites banques n'étaient pas dangereuses. Et peut-être qu'il y a une leçon à tirer de ce qu'on a vu, c'est que les petites banques ou les banques de taille moyenne doivent avoir la même réglementation que les très grandes.
Dans les banques européennes, la différence avec les banques françaises, c'est que nous, on a des taux fixes. Du coup, on voit dans les résultats, on ne fait pas les mêmes bénéfices que les autres banques européennes. Tant pis pour nous, tant mieux pour les Français. Comment vous voyez ça?
Vous avez raison. C'est vrai que nous sommes le seul marché où nous avons des revenus qui reculent avec la hausse des taux.
Parce que vous avez fait le crédit immobilier à des taux très bas.
Parce que finalement, nous sommes un marché très protecteur, c'est vrai, des emprunteurs. Il n'y a pas d'augmentation de leur mensualité. Oui. Et puis par ailleurs, on a le livret A. Donc on transfère énormément d'argent immédiatement quand les taux remontent. C'est une spécificité française.
Et ça vous coûte le livret A, vous?
Ah bah bien sûr. Bah, nous, ça nous coûte 400 millions de revenus en moins. Donc non, c'est vrai que le marché est difficile. Bah, je suis heureux pour nos clients, si j'ose dire. C'est plus difficile pour nous, d'où la nécessité de se transformer.
Est-ce que vous êtes contre donc une nouvelle hausse du livret A d'ici l'été?
J'ai pas moi à me prononcer là-dessus. Il faut regarder tous les paramètres. Le livret A, ça sert aussi au logement social. Le logement, c'est vrai qu'aujourd'hui, est un peu en difficulté. Est-ce qu'il faut augmenter à des niveaux très élevés? 3% net d'impôt pour un produit très très liquide qu'on peut retirer en tout moment, c'est pas mal déjà.
Quand vous êtes arrivé il y a 15 ans à la Société Générale, à la tête de la Société Générale, parce que ça faisait beaucoup plus longtemps que vous étiez, c'était quand même une banque qui était en difficulté, qu'il fallait transformer sur le plan du management. C'était un défi colossal. Est-ce que là, vous allez arriver chez Sanofi, est-ce que vous dites c'est la même chose finalement? J'ai une image à redresser, des conflits de management. Vous voyez ça comme le même type de défi?
Non, pas du tout. Je suis arrivé dans la foulée de la crise Kerviel et avec la gestion de la crise financière. Le secteur de la pharmacie est un secteur passionnant avec des enjeux énormes, d'impact sur les vies, sur les sociétés, des enjeux de souveraineté. Il y a des vrais enjeux stratégiques. En revanche, il n'y a pas l'instabilité liée à la situation qui peut, vous voyez, faire bouger très vite la situation des banques. Là, c'est quelque chose de des cycles très longs. Nous parlons aujourd'hui de médicaments qui vont être vendus en 2031-2032. Vous voyez, le cycle totalement différent de l'instantanéité des marchés financiers. Et je vais essayer de contribuer. C'est Paul Hudson qui est le directeur général. On va former, à mon avis, un formidable binôme, très complémentaire, pour bien sûr renforcer encore la présence de Sanofi comme le fleuron français et européen de la pharmacie.
Alors, dans 10 jours, vous êtes président de Sanofi. Comment vous voyez les enjeux du conseil d'administration? Parce que, effectivement, vous le disiez, c'est une industrie de très long terme. Il faut investir sur très long terme. On peut se planter. On l'a vu sur les vaccins. On a vu sur l'ARN messager. Il fallait prendre beaucoup de risques. Et finalement, savoir quelle technologie marchait, c'est pas le cas de Sanofi. Mais vous avez par ailleurs des best-sellers mondiaux qui sont une rente formidable. Comment vous voyez quand même un peu votre rapport d'étonnement de cette entreprise sur laquelle, j'imagine, vous travaillez depuis quelques mois maintenant?
D'abord, si vous voulez, je voudrais rendre hommage à Serge Wimbert. Il a fait un travail incroyable
comme président
pendant 13 ans. Nous avons un conseil d'administration très engagé. Je n'ai pas de choses immédiates à régler. Par contre, il y a des enjeux, effectivement, autour de la recherche et du développement. Vous l'avez dit avec Sanofi, qui a un formidable médicament qui s'appelle Dupixent. Mais l'enjeu, c'est bien sûr en permanence de renouveler ces médicaments qui vont soigner des maladies graves, etc. Deuxièmement, il y a un enjeu d'innovation un peu comme la banque. Les données et le digital vont peut-être aider justement à aller plus vite dans le développement de nouveaux médicaments.
On l'a vu avec les vaccins, c'est le digital qui nous a permis de développer les vaccins aussi vite.
Alors, pas que le digital.
Avec les jumeaux numériques de Dassault.
D'autres technologies aussi. Mais en tout cas, il y a un enjeu d'innovation avec le fait que cette innovation, comme un peu dans la banque d'ailleurs, est souvent dans des biotech, des petites entreprises. Donc, comment vous faites qu'une grande entreprise sache continuer à innover?
Comment on trouve le prochain Moderna ou BioNTech?
Exactement. D'où l'enjeu de la recherche et du développement, du digital et de l'informatique, bien sûr des outils industriels parce qu'ils doivent s'adapter à ces nouvelles technologies, et puis tout naturellement, l'entreprise, sa culture. L'entreprise Sanofi est une entreprise assez jeune par rapport à la Société Générale. Elle n'a que 50 ans. Elle vient de célébrer ses 50 ans avec des gens extraordinairement engagés, parce que quand vous sauvez chaque jour des vies, ou vous vous dites que vous pouvez sauver des vies et transformer la vie des gens, il y a un impact considérable. Donc, il y a des gens très engagés, et moi, j'aurais à cœur, avec Paul, de continuer à faire vivre cette culture de Sanofi.
Mais Frédéric Goudère, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais qu'est-ce que vous y connaissez, vous, aux médicaments, vu que vous sortez de la banque depuis quasiment 30 ans? Là, vous faites quoi? Vous apprenez au quotidien?
Vous avez tout à fait raison. J'apprends au quotidien. Je me suis mis à refaire, si vous me permettez, un petit parcours. Depuis septembre, j'ai rejoint le conseil d'administration et j'apprends. Et j'apprends grâce aux équipes de Sanofi, grâce au conseil où il y a 3 scientifiques qui vont m'aider à progresser. Donc oui, j'admets avec beaucoup d'humilité, j'ai des choses à apprendre. Mais à l'inverse, je sais des choses. Dans le digital et l'informatique, je pense que la banque est plutôt en avance. Il y a les marchés financiers, comment réagissent les investisseurs. Et sur le plan... Mon sujet, c'est de faire fonctionner le conseil dans sa collégialité avec toutes les expertises qui sont autour de la table.
Elle a raison, Laure. On en a beaucoup parlé pour préparer l'émission. On se disait, est-ce qu'un patron sait tout faire? Est-ce qu'un patron peut aller de la pharma, enfin de la banque à la pharma?
Un patron ne sait pas tout faire. L'enjeu pour un patron, c'est de s'entourer aussi des talents dans l'ensemble d'expertise pour ensuite fixer une direction, animer ce groupe pour faire que chacune et chacun se sente bien et délivre le meilleur de lui-même.
Mais vous avez vu, à Choose France, il y a beaucoup d'annonces sur la pharma d'étrangers, puisqu'on parle des investissements étrangers en France. Il y a Pfizer, il y a Merck, il y a peut-être un labo qui fera de l'ARN messager. On espère que Moderna va implanter sa chaîne de production en France dans quelques semaines ou quelques mois. Vous sentez cette pression concurrentielle avec la relocalisation de vos concurrents sur le territoire?
Non, mais Sanofi est très implanté en France, a 18 sites industriels, a aussi des plateformes ARN messager. Bon, bref, l'enjeu n'est pas tellement ça. L'enjeu, c'est une compétition internationale. Et je le répète, l'enjeu, c'est effectivement d'arriver à être compétitif dans la recherche de nouveaux médicaments avec ceux qui s'implantent en France ou ailleurs. C'est un monde et un secteur extraordinairement global et international.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « encore un financier qui va diriger une boîte industrielle » ?
Vous savez, la banque, c'est pas que de la finance. Quand vous êtes une nouvelle fois en train de faire basculer une fusion avec 30 000 personnes, qu'il y a 2 000 personnes mobilisées ce week-end qui travaillent ensemble avec des fonctions de toute nature, c'est des hommes et des femmes, comme dans n'importe quel secteur. Donc je pense que j'ai une certaine expérience de la conduite d'équipe. Voilà, et donc ça peut s'appliquer à la pharmacie, à la vente de t-shirts ou à la fabrication de produits alimentaires, comme à la banque. La banque, c'est un métier d'homme et de femme.
Un dernier mot, alors on reprend votre casquette de Société Générale. Est-ce que vous êtes confiant sur la stabilité du système financier international? Il y a la crise des banques américaines, il y a le plafond de la dette aux États-Unis. Donald Trump veut bloquer en fait le processus, veut carrément mettre en défaut l'Amérique, toujours la stratégie du pire. Est-ce que ça peut arriver?
Nous sommes dans un monde avec beaucoup de facteurs de risque. Et il est probable qu'il y ait des turbulences futures venant de tel ou tel problème géopolitique. Le plafond de la dette, je pense quand même que l'enjeu étant tel qu'ils vont finir par trouver une solution. Ils sont quand même autour de la table en train de discuter. Mais il y a d'autres phénomènes qui peuvent se produire. Et de toute façon, c'est vrai que cette incertitude sur l'inflation et les taux d'intérêt peut créer, je répète, des turbulences, y compris dans le secteur financier.
C'est pas terminé.
C'est probablement pas terminé. Et notamment sur les banques petites et moyennes. Ce que ce premier trimestre a montré, c'est que le système bancaire européen est resté extraordinairement stable. Et je pense que c'est ça qui est l'enjeu principal pour les ménages, pour les entreprises européennes, de pouvoir s'appuyer sur ce système financier et bancaire stable.
Merci beaucoup Frédéric Oudéa d'avoir été avec nous. On vous souhaite de ne pas pleurer à votre pot de départ, même si franchement je pense que ça va être difficile.
C'est le défi que m'ont fixé les équipes.
À mon avis, vous allez pleurer.